Frères et sœurs, notre espérance est en Dieu. Que chacun de nous reçoive de lui maintenant la grâce, la miséricorde et la paix. C'est vraiment une joie d'être assemblés ainsi pour s'ouvrir à sa présence, pour entendre sa parole et pour le célébrer, lui, notre Créateur.
À toi. Nous disons notre louange à Dieu avec Sacha.
En donnant ton Fils, Jésus-Christ, au monde, tu as montré que tu es un Dieu aimant. Tu nous donnes la vie par amour et tu nous permets d'aimer à notre tour. Dans ce monde où l'on ne sait peu de choses, c'est grâce à toi que nous pouvons le comprendre et l'améliorer. Tu nous aides à être plus heureux, à mieux profiter de ce que nous lisons, à aimer les yeux sur la beauté du monde. Tu élargis nos pensées, tu nous rends proches de ce qui nous entoure, tu fais du monde extérieur notre famille. Nous te louons. Amen.
Merci beaucoup, Sacha. Et nous chantons ensemble, nous poursuivons dans la louange avec le psaume 33 que vous trouverez dans le psautier français. Donc les strophes 1, 2 et 5 du psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle.
Comprend rien.
Où est-ce qu'est Gérard? Tu sais pas, Coco?
Il est allé vérifier.
Ben voilà, c'est ça, d'accord. C'est pour ça que je l'appelais.
Son attente et sur l'autoroute.
Et avec Piama, nous allons entendre la volonté de Dieu, dont vous pouvez vous asseoir, prendre place, pour entendre ce que Dieu nous propose de vivre.
Voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre et pour vivre heureux. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et nous nous tournons avant vers Dieu avec confiance, avec cette prière que va nous donner donc Romain.
Seigneur, notre Dieu, bien souvent, nous n'avons écouté que notre désir de l'instant, sans nous poser une seule petite question, sans penser une seule seconde à ce qui aurait été juste, ni à ce que Jésus en aurait pensé. Et du coup, bien souvent, nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes, bien souvent, nous avons oublié notre prochain, bien souvent, nous t'avons oublié, toi, notre Dieu. Toi qui es pourtant la source de la vie. Ô Dieu, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes encore et toujours malgré tout, donne de la vie à notre questionnement, donne du corps à notre point de vue, donne de la force à notre volonté. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Et c'est Alfred qui va donc nous donner les paroles qui annoncent le pardon de Dieu pour chacune et pour chacun.
Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son pardon. Amen.
Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place. Alors, frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, nous avons la grande joie d'entourer ces catéchumènes qui, pour répondre à l'appel de Dieu, ont demandé d'affirmer devant la communauté leurs disciples d'être, leur désir d'être disciples de Jésus-Christ. Alors, catéchumènes, c'est chaque jour que Dieu vous donnera la force de persévérer dans la foi et puis dans l'espérance que nous donne le Christ. Dans les moments difficiles, il sera votre délivrance. Dans le doute, il sera quelque chose de fort et de solide. Dans la peur, il sera votre courage. Dans la souffrance, il sera votre réconfort. Dans la colère, dans la haine, il sera une paix qui viendra à l'intérieur de vous-même. Toujours, cet amour de Dieu vous précédera sur votre route et sans cesse, il renouvellera la joie dont il comble ceux qui s'ouvrent à lui. Aucune puissance en ce monde ne peut vous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Alors vous, les parents de ces catéchumènes qui avez la joie de voir vos enfants se lever parmi nous en ce dimanche, votre désir est bien sûr qu'ils soient heureux. Eh bien, soyez pleinement persuadés que leur bonheur est en particulier dans une vie qui est transcendée par ce que Dieu nous apporte et qui permet d'être ainsi au service des autres. Et puis, frères et sœurs, nous tous que Dieu appelle, nous avons reçu le baptême peut-être, nous l'avons confirmé nous-mêmes peut-être par notre foi, eh bien, il nous invite à demeurer fidèles à cette grâce qui nous a été faite d'être disciples du Christ. Et dans la communion de l'Église qui déborde largement les limites visibles que mettent les hommes, mais surtout dans la communion avec Jésus-Christ, qui est avec ses jeunes, avec nous-mêmes, eh bien nous faisons au Seigneur une profession de foi sans cesse renouvelée. Alors, nous allons commencer, alors c'est un hasard en fait, nous allons commencer par Alfred, qui eh bien, a écrit un texte qui va nous dire et qui sera donc quelque chose voilà, qui désire nous apporter aujourd'hui à nous toutes et à nous tous. Merci Alfred.
Pendant toutes ces années d'école biblique, puis de catéchisme, j'ai appris à mieux connaître les récits de la Bible et la parole de Dieu. Aujourd'hui, je pense avoir mûri ma foi et je souhaite confirmer le baptême que j'ai reçu lorsque j'avais 1 an. J'en ai 15 et on me dit qu'à cet âge, presque tout est possible pour la vie qui s'ouvre devant moi. Alors c'est avec toi, Seigneur, que je voudrais m'engager sur la route. Donne-moi le courage de la liberté, le courage des choix lorsque j'arriverai à un croisement. Donne-moi le courage de me tenir droit, comme tu veux que je le sois avec ton Fils Jésus-Christ. Je sais que tu es fidèle et que tu m'accompagneras tous les jours de ma vie.
Alors traditionnellement, on demande de confesser la foi chrétienne. Est-ce que, en communion avec tous les chrétiens de toutes les églises, de toutes les générations, est-ce que tu veux confesser la foi en Christ ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Voilà, donc merci beaucoup. Vraiment, Dieu t'accompagnera sur la route qui est la tienne et l'illuminera donc de sa lumière.
Mademoiselle Piamma. Alors, Piamma, nous avons beaucoup de joie à t'accueillir ici même. En fait, il y a quelques catéchumènes qui ont sévi un peu dans le même groupe scolaire et vous vous retrouvez aussi au catéchisme, ce qui est assez rare dans notre paroisse très dispersée. C'est aussi une façon de sentir la communion qu'il y a. Alors, Piamma, souhaites-tu toi aussi confesser la foi chrétienne ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Piamma, l'Éternel te bénit et te garde. Il porte sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Vers toi, il tourne sa face et te donne sa paix, t'accompagnant ainsi sur le chemin de ta vie. Alors, Piamma, tu as toi aussi quelques mots que tu as retenus, que tu souhaites partager avec nous, et je te donne maintenant la parole pour pouvoir exprimer ces intuitions que tu as en toi.
Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Non, celui qui garde Israël ne sommeillera pas. Il ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. Il se tient à ta droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel veillera sur ton départ comme sur ton arrivée, dès maintenant et à toujours. J'ai choisi ce psaume car lorsque nous regardons les montagnes, nous regardons vers le haut, ce qui nous mènera vers le positif et vers les hauteurs.
Merci.
Merci beaucoup, Pierre.
Alors maintenant, c'est Sacha, avec grande joie de t'avoir aussi donc, parmi nous ce matin. Alors, est-ce que, avec, en communion avec tous les chrétiens de toutes sortes, de tout pays, de toute génération, tu veux confesser la foi de l'Église universelle ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors, tu as écrit quelques mots pour préciser un peu ce qui est important pour toi, ce que tu veux nous apporter à chacune et à chacun pour ce dimanche.
J'arrive à la fin de mes 4 années de catéchisme et je vais devenir un adulte dans la foi. Je pense que devenir un adulte dans la foi signifie que l'on peut transmettre notre savoir aux plus jeunes, leur apprendre ce que l'on a appris. Devenir adulte, c'est penser Dieu avec un esprit plus critique. C'est décider de notre avenir soi-même de manière responsable. C'est entreprendre des choix en assumant les conséquences. C'est savoir de quoi on parle, avoir des convictions. C'est pouvoir raisonner librement en faisant le tri de ce qu'on lit et de ce qu'on entend. J'ai été baptisé quelques mois après ma naissance. Maintenant, après mon parcours catéchétique, je souhaite m'engager dans la vie en tant que chrétien grâce à l'amour de Dieu.
Merci beaucoup, Sacha. Oui, que Dieu te bénisse et te garde. Tu es une joie pour nous et pour l'Éternel.
Romain, je t'invite à nous rejoindre. Voilà encore un bon exemplaire de la rue Madame. Alors Romain, déjà nous sommes heureux de pouvoir partager ce moment avec toi. Souhaites-tu toi aussi confesser la foi chrétienne ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Romain, l'Éternel te bénit et te garde. Il porte sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Vers toi, il tourne sa face et te donne sa paix. Et c'est ainsi que tu peux avoir la conviction d'être accompagné sur le chemin de ta vie. Romain, je te donne toi aussi la parole pour que tu puisses exprimer plus personnellement cette foi qui la tienne.
Je crois en un seul Dieu, notre Père Créateur. Il a pour chacun de nous des projets de vie et de joie. Je crois que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Il est pour moi le chemin qui conduit à Dieu. Je me tourne vers Dieu pour qu'il me guide et m'aide à suivre ses commandements. Dieu est notre amour et nous avons reçu de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi ses frères. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort et à la vie qui dure toujours.
Donc, catéchumènes, je vous invite tous les quatre à nous rejoindre au milieu. Vous avez reçu donc, comme vous le disiez, le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membres donc, de l'Église universelle, de l'Église chrétienne. Vous avez désormais votre place pleine et entière dans l'Église chrétienne. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Oui, que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur le chemin de votre vie et que Dieu bénisse à travers vous tous ceux qui vous sont chers. Que ceux qui vous ont aimés, soignés, nourris matériellement et spirituellement soient bénis, honorés et vraiment joyeux de vous voir ainsi fidèles et forts. Amen. Alors nous avons préparé en souvenir quelques psautiers en fait. Alors c'est des psautiers qui sont œcuméniques. Et moi-même, quand je pars un peu en voyage, dans la montagne ou en vacances, j'emporte souvent que ce psautier parce que c'est vrai que les psaumes, si vous voulez, ce n'est pas une leçon qui nous est faite. C'est des hommes, des femmes, des communautés qui ont simplement écrit là leur méditation, leur prière. Alors ça sera peut-être pour vous l'occasion de vous ressourcer dans des moments joyeux ou des moments difficiles. Alors Romain, un petit psautier.
Sacha. Bon, faisons un bon usage.
Ah, Piama. Merci beaucoup.
La foi, c'est ça. Les yeux fermés, c'est pour Alfred.
Merci, grand merci à vous tous. Et nous chantons ensemble comme une bénédiction qui est donnée à ces jeunes, mais à chacun et chacune d'entre nous Enfant de Dieu, le cantique 204, les strophes 1 et 2 de cette prière, Seigneur dirige et sanctifie. Vous pouvez prendre place pour entendre la lecture de la Bible. Alors en ce jour de Pentecôte, eh bien, je vais vous lire bien entendu dans le livre des Actes des Apôtres, donc le début du chapitre 1 et le début du chapitre 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, « vous m'avez entendu parler ». Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez vraiment une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et au verset 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues qui semblaient comme de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent et elles se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes sortes de nations sous le ciel. Au bruit de ce qui se produisit, la multitude accourut et fut toute confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, avec cette histoire de langue confondue, de langue multiple, ça m'a donné envie de lire ce qui est en fait assez classique, le récit de la tour de Babel, de la ville et de la tour de Babel. Effectivement, depuis des milliers d'années, les commentateurs ont vu un rapprochement, une citation de cette histoire de Babel dans le récit de la Pentecôte. Donc c'est au chapitre 11 de la Genèse, les 9 premiers versets. Toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons et faisons des briques et cuisons-les au four. » La brique leur servit de pierre et le goudron leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons et bâtissons-nous une ville et puis une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants des hommes. L'Éternel dit, « Voici un seul peuple. Ils parlent tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils ont décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. » Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, qui veut dire confusion, car c'est là que l'Éternel confondit le langage sur toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur la surface de la terre. Enfin, je voudrais vous lire dans le livre de Deutéronome le récit de Moïse qui reçoit donc la parole dans le feu. C'est une autre, finalement, citation que fait le récit de la Pentecôte avec cette histoire de feu. C'est au chapitre 5 du Deutéronome. Moïse convoqua tout Israël et lui dit, « Écoute, Israël, les prescriptions et les ordonnances que je proclame aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les, observez-les pour les mettre en pratique. » L'Éternel, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance sur le mont Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a conclu cette alliance, mais c'est avec nous, nous-mêmes, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Et moi, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous pour vous annoncer ce que disait l'Éternel. Car vous aviez eu peur du feu, et vous n'étiez pas monté sur la montagne. Et Dieu dit, « Moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison, de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et ensuite Moïse poursuit en disant donc les 10 paroles. « Ô Éternel, vraiment, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. » Alors, pour laisser le temps de méditer, finalement, ces récits anciens, ces témoignages anciens qui sont dans la Bible, eh bien, nos catéchumènes nous proposent de chanter le cantique 103 dans le petit recueil « Louanges et prières » d'un arbre séculaire pour s'ouvrir, voilà, à ces racines anciennes qui nous sont données et à ce Christ, voilà, qui change tout. Cantique 103. Ô Éternel, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Aide-nous afin que dans ce témoignage que nous avons lu dans la Bible, nous puissions chacun, chacune, découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, oui, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui animera notre cœur, nos paroles et nos actes. Pour comprendre une langue, normalement, il faut connaître au moins la plupart des mots de cette langue, et puis un peu de syntaxe aussi, comment ces mots s'organisent. Alors la Bible utilise la langue hébraïque pour la première partie, la langue grecque pour la seconde. Heureusement que ces textes ont été traduits en français, cela nous aide, même si bien entendu, il n'y a pas de traduction parfaite. Mais cela ne suffit pas pour comprendre la Bible. Car un récit comme celui de Pentecôte n'est pas seulement composé de mots grecs, il est aussi composé de citations d'autres récits bibliques. Et comme pour comprendre une langue, il faut connaître les mots de la grammaire grecque, eh bien, les mots et la grammaire grecque, pour comprendre un texte biblique, cela aide de connaître les textes qui sont cités et voir comment ils s'articulent, et donc ce que le texte peut nous dire. En ce qui concerne ce récit du livre des Actes des Apôtres, depuis des millénaires, les lecteurs ont remarqué sa grande proximité avec au moins deux récits de la Torah, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. L'histoire de la tour de Babel et puis l'histoire de Moïse recevant la parole de Dieu comme dans du feu. Donc dans ce récit de Pentecôte, ces histoires sont un peu comme des mots qui s'assemblent dans une phrase pour nous dire le salut de Dieu, le salut que Dieu nous donne en Christ, et puis de voir comment est-ce que ce salut qui vient en nous eh bien, vient accomplir finalement la Torah, les Écritures. D'où l'importance de connaître la Bible pour lire la Bible. Ce n'est qu'à partir de la deuxième lecture finalement personnelle de la Bible que l'on peut commencer à saisir de quoi parle le texte biblique, y reconnaître les allusions et de dire « ah ben oui, c'est de ça dont il parle ». C'est pourquoi nous remettons une vraie Bible d'adultes aux tout jeunes enfants commençant leur catéchisme à l'oratoire, alors qu'ils savent à peine lire. Et c'est pourquoi nous avons été exigeants pour vous, catéchumènes, au cours de votre cursus ici, à l'oratoire, pour lire et pour approfondir la Bible, pour réfléchir, pour discuter. Alors, c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais c'est pour vous libérer de ceux qui voudraient penser à votre place. Cela vous donne une grande force intérieure pour ne pas vous laisser embobiner par la première secte venue, ou bien par les fondamentalistes qui sont champions pour dégainer un verset hors contexte, pour imposer leur point de vue aux autres. Au contraire, cette ouverture à la profondeur du sens du texte biblique, elle est utile pour que vous puissiez développer votre propre théologie, mais aussi pour vous interroger à nouveau frais sur l'état du monde et la part que vous aimeriez lui apporter. Alors le premier texte auquel fait référence le récit de la Pentecôte dans ce livre des Actes des Apôtres, c'est l'histoire de Babel qui est tout à fait parallèle avec notre récit de Pentecôte. Babel commence avec une humanité qui est rassemblée dans une ville avec une seule langue, un seul et même grand projet. Dans les Actes, les disciples de Jésus sont rassemblés, nous l'avons vu, dans une seule même chambre haute, tous d'un commun accord, unis dans la prière, nous dit les Actes. Alors l'humanité de Babel, ainsi que les disciples de Jésus ici, se renferment sur leur petite communauté, bien soudée, bien confortable, parce qu'ils ont peur de l'extérieur. Ils se protègent du chaos du monde en se serrant les coudes, ce qui est une bonne idée, dans un endroit clos, mais surtout dans une unité de pensée et de prière. Le rempart est physique, la muraille de la ville et puis les murs de la chambre haute. Mais ils ont aussi dressé des murs idéologiques, théologiques, spirituels qui leur permettent de se sentir finalement bien confortables et à l'abri du chaos dans une pensée unique. Ils sont une seule âme, nous disent ces textes. Un seul même projet, ils parlent une même langue jusqu'à leur prière qui est commune. À Babel, comme dans le récit des Actes des Apôtres, Dieu se révèle à eux en personne et il en ressort une grande confusion. C'est le même mot, synkeo, qui est employé dans les Actes et dans la Genèse pour parler de la conséquence de l'action de Dieu, la confusion, le brouillage. Alors pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi ? Rien ne dit dans l'un ou l'autre texte que ce serait une punition de Dieu parce qu'ils auraient mal agi avant. Au contraire, Dieu les sauve, évidemment, car il est comme ça en réalité, toujours sauvant et jamais écrasant, jamais donnant du mal et de la peine. Et l'action directe de Dieu n'est pas une punition pour ce qu'ils auraient fait, mais c'est une libération de leur enfermement. L'intervention de Dieu leur permet de passer à l'étape suivante, celle de la diversité. Au lieu de tous parler une langue unique, dans un lieu unique, avec un projet unique, une prière unique, après l'action de Dieu, chacun parle sa propre langue et ils sont envoyés par Dieu aux quatre coins du monde, de ce monde qu'ils craignaient. Mais il y a quand même une différence entre ce récit de Babel et le récit des Actes. Dans le récit des Actes des Apôtres, chacun effectivement s'exprime dans sa propre langue, dans une multiplicité, mais les autres comprennent la langue maternelle de chacun, comme si c'était la leur, finalement. Alors qu'à Babel, l'intervention de Dieu sonne la fin de la langue et de la pensée unique. Chacun parle sa propre langue et les autres ne comprennent plus rien. Donc dans les deux récits, Dieu fait passer de l'unité à la diversité. Mais à la Pentecôte, le miracle, c'est que malgré cette diversité, les gens se comprennent. Il y a à la fois diversité et communion. La Pentecôte, c'est donc la suite de Babel. C'est son aboutissement, son accomplissement. L'auteur des Actes lit donc positivement le projet des humains, donc avec la ville et avec la tour de Babel. Cela veut dire que l'humanité, voilà, a compris que c'est une bonne idée de s'entendre ensemble, d'avoir un projet commun, comme le font les habitants d'une ville, de mettre en commun les réseaux d'électricité, d'eau, de transport. Et puis au cœur de cette communauté, voilà cette tour qui s'élève vers le ciel et relue par les Actes des Apôtres, donc comme une prière commune lancée vers Dieu dans l'attente de ce qui va venir de lui. Et donc cette unité, c'est comme une première étape, nous dit le livre des Actes. C'est une bonne préparation permettant à Dieu de les ouvrir à une étape plus belle et plus élevée qui est celle de la diversité. L'unité est une bonne chose, mais juste temporairement finalement. C'est la diversité que Dieu aime. Mais en réalité, ce récit de Babel est quand même un peu une énigme. Il peut être lu positivement, comme le fait Luc, et ce qui est en fait une lecture plus rare de ce texte biblique. Beaucoup pensent qu'il doit être lu négativement, avec cette horreur qu'est la pensée unique imposée à chacun, comme dans les pires dictatures, finalement, où ceux qui pensent différemment sont éliminés. Ne rigolez pas, c'est vite fait que ça tourne à ça dans une église, ou dans un parti politique, ou dans une famille. Il y aurait aussi la folie d'orgueil de vouloir s'élever au ciel pour être Dieu à la place de Dieu, Dieu sans se passant de Dieu, finalement. Cela existe dans toutes les entreprises, tous les groupes, même dans l'église. Cette interprétation négative de l'humanité de Babel n'est pas impossible. Effectivement, Dieu interviendrait alors, non pas pour les punir quand même, mais pour guérir de cette pensée unique et de cet orgueil. Et puisqu'au moins deux interprétations possibles peuvent être faites de ce texte, eh bien cela nous pose une question intéressante pour notre propre façon d'interpréter la Bible, mais aussi notre propre façon de vivre et d'espérer. Un même projet que nous faisons, ça peut être une chose positive ou une chose négative. Ça peut être un beau projet commun ou bien ça peut être une tyrannie qui impose aux autres de ne pas avoir leur propre projet. C'est si vite fait de passer de la communauté à la tyrannie. Est-ce que notre but quand on a un projet, va réellement dans le sens d'une élévation? Ou est-ce qu'au contraire, ça va dans le sens de l'orgueil? C'est vite fait de passer de l'un à l'autre. Par exemple, de sacraliser notre doctrine quand on a bien avancé dans la théologie, ou bien de sacraliser nos pratiques quand on a trouvé un bon truc, de dire ça sera le bon truc pour toujours et pour tout le monde, de sacraliser nos lois, notre drapeau, notre chapelle, et de se prendre ainsi un peu pour Dieu, ce qui n'est pas génial. Peut-être encore, nous dit Babel, que dans notre refus du mal et du chaos qui existent effectivement aussi dans ce monde, il n'y a pas que des belles choses, eh bien nous nous sommes renfermés comme dans une tour d'ivoire, laissant crever ceux du dehors et puis faisant étouffer ceux du dedans. Le texte biblique, dans sa diversité des interprétations possibles, est un miroir très utile pour nous découvrir nous-mêmes. La Bible est un miroir. Et la Bible est aussi des portes vers la vie, de multiples portes qui nous sont ainsi, que la Bible nous fait découvrir. Babel pose la question de savoir comment réagir face au chaos du monde. Alors il y a déjà un très grand projet dans Babel par rapport aux épisodes précédents de la Genèse, l'assassinat d'Abel par Caïn avec la jalousie, la violence de l'humanité au temps de Noé. Babel apporte une autre réponse que celle de la violence face au chaos. Cette réponse, c'est la communauté. Comme le dit Martin Luther King, il nous reste encore ce choix à faire aujourd'hui, coexistence non violente ou co-annihilation violente. Ce pourrait être, nous dit-il, pour l'humanité, sa dernière chance de choisir entre chaos et communauté, pour cette maison commune qu'est le monde, nous dit-il. Alors avec Babel, la Genèse nous ouvre une porte. Dans notre peur face au chaos du monde, nous pouvons choisir la communauté. Mais quelle communauté? Comme Babel, nous pensons d'abord nous réunir, faire une commission, se mettre d'accord sur le projet commun, puis puiser dans cette union une force, une élévation. Puis dans un deuxième temps, s'ouvrir, étendre cette bonne disposition au monde, être comme un levain mélangé à la pâte à pain qu'est le monde. Le récit de la Pentecôte va plus loin. Il ouvre une autre porte, celle de la diversité et de la communion. La diversité seule, c'est aussi une sorte de chaos. La communion dans l'unité, c'est un étouffement, c'est une tyrannie, une négation de la personnalité de chacun, de l'individu. Donc l'une comme l'autre, la diversité, la communion, seul et séparé du reste, est contraire à la volonté de Dieu. Ce que crée l'Esprit à la Pentecôte, c'est la diversité et la communion, les deux ensemble. Et c'est là que la deuxième importante citation que nous donne le récit de Pentecôte est essentielle. L'Esprit de Dieu se sépare en autant de petites flammes qu'il y a de personnes dans la communauté qui est assemblée dans la chambre haute, en prière. Ce feu est donné individuellement à chaque personne présente, sans distinction entre le savant et le plus humble des hommes ou des femmes présents. Eh bien, ce récit fait de chacune et chacun un Moïse. Alors que dans l'histoire de Moïse, nous l'avons entendu, le peuple avait eu peur du feu. Et seul le héros, Moïse, avait eu le courage d'avancer vers la montagne et puis s'était élevé sur la montagne à la force de ses petites jambes. Et du coup, Moïse se tenait entre l'Éternel et le peuple. C'est lui qui entendait ce que Dieu disait et le transmettait ensuite au peuple. Eux n'avaient rien entendu. Ils devaient obéir, ils devaient suivre, devaient écouter ce que dit Moïse. Et puis quand le peuple avait quelque chose à dire à Dieu, ben c'est vers Moïse, vers l'Église, qu'ils allaient pour qu'ils le transmettent à Dieu. Mais eux ne pouvaient pas trop prier. Et quand le peuple faisait une bêtise, c'est Moïse qui allait leur sauver la mise en allant supplier Dieu de ne pas les abandonner, cette fois-ci encore. Et donc à ce moment-là, eh bien, le peuple est comme des bébés finalement. C'est une première étape. Grâce à Moïse, ils entendent quand même quelque chose, ils sont quand même un peu en route, bon an, mal an. Mais Dieu veut aller plus loin avec nous, disent les prophètes. Et c'est ce qui se réalise à la Pentecôte, nous dit ce texte des Actes des Apôtres. Ce qui est neuf en Christ, c'est que nous sommes chacune et chacun ce que Moïse était. L'humanité de la Nouvelle Alliance est un peuple entier de Moïse et de Moïsette. Alors cette claire allusion à Moïse dans le récit de Pentecôte fait en quelques mots, en une image, celle du feu qui est donnée à chacun. Quelque chose d'immense est ainsi dit. Et pour savoir ce qui nous est promis comme pouvoir et comme privilège en Jésus-Christ, il suffit de nous souvenir de cette figure de Moïse, de nous rappeler ces textes. Moïse voyant Dieu face à face, discutant avec lui de philosophie et de théologie comme au buisson ardent, osant se lever malgré ses limites, sa faiblesse, pour sauver son peuple des griffes d'un pharaon tout-puissant, faisant des miracles, permettant des franchissements impossibles, écoutant la parole de Dieu et osant se révolter contre elle, discutant, argument contre argument avec Dieu, aimant, pardonnant, partageant son pouvoir avec les autres, sachant faire preuve d'autorité quand il le faut, tout cela au service de ceux que Dieu lui avait confiés. Alors nous sommes appelés à être ce Moïse, à notre façon, ce prophète immense, voyant Dieu face à face. C'est tout cela et mille choses encore qui nous sont dites sur notre dignité à nous en tant que personne et sur notre mission en ce monde. Et cela nous permet de relire autrement finalement les livres de l'Exode, du Nombre, du Deutéronome, qui maintenant ne nous parlent plus seulement d'Adam, Ève, de Moïse, d'Abraham, mais qui nous parlent de ce qui nous est donné en Christ, individuellement. Oui, catéchumène, vous êtes Moïse. Vous êtes même plus grand que Moïse, parce que vous arrivez après lui et qu'en l'étudiant, vous pouvez monter sur les épaules de ce géant. Vous êtes, chacune et chacun, digne de recevoir l'esprit de feu. Nous ne sommes plus des bébés, comme le disait Sacha, pour que ce soit l'Église qui nous dise encore quoi penser et quoi croire. Nous ne dépendons plus de soi-disant experts pour nous dire quelle est la seule véritable interprétation du texte biblique. Car c'est individuellement que l'Esprit nous est donné. Dieu veut, il cherche, il espère notre propre interprétation de l'Écriture, une interprétation donc subjective, en fonction de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, une parole neuve aussi, selon ce que l'Esprit nous donnera. Mais l'image pour parler de cette révélation qui est donnée à Moïse, le Moïse que nous sommes, cette image qui est donnée ici dans ce texte de la Pentecôte est significative. Ils auraient pu prendre l'image de Moïse recevant une table de pierre sur laquelle Dieu a inscrit avec son doigt les 10 paroles. Mais non, c'est un souffle qui nous est donné, nous dit Luc dans les Actes des Apôtres. C'est-à-dire un geste de Dieu qui nous aide à grandir, à évoluer positivement, une évolution qui fait reculer le chaos qui est en nous, qui nous habite encore un peu. Et c'est une flamme qui nous est donnée par Dieu, nous dit les Actes. Ce n'est pas un texte, ce n'est pas une parole, ce n'est pas un parchemin avec un ordre de mission, mais c'est une mise en lumière de notre monde, quelque chose qui nous libère, c'est une lucidité, c'est une intelligence plus vive grâce au questionnement qui nous est proposé. C'est une flamme qui nous purifie ce qui est impur en nous. C'est une chaleur qui nous réchauffe notre cœur et qui nous donne un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. Alors notre Église est-elle, face au chaos du monde, un bunker de croyances sacralisées, valables pour toutes et pour tous, et présentons le monde extérieur comme horrible, comme noir, comme un chaos terrible? Non. L'Église est plutôt cette chambre haute où nous nous retrouvons un instant seulement. Mais afin que chacune et chacun puisse recevoir l'Esprit, s'apprête à recevoir l'Esprit, laisse en lui un espace pour le recevoir, dans le secret de son cœur, de ses pensées, de ses rêves, et que chacun puisse ainsi se sentir autorisé et appelé à suivre son propre chemin et apporter quelque chose d'authentiquement neuf à la belle et riche diversité que Dieu espère manifestement. Alors nous sommes partis d'un monde en chaos. Est-ce que cette multiplication de Moïse et de Moïsette, cette brisure de l'unité par Dieu lui-même, pour créer la diversité des interprétations, des langues et des vocations, des projets, est-ce que ce n'est pas un nouveau chaos finalement? Eh bien non, nous promet le récit de Pentecôte. Alors faisons confiance à Dieu. L'Esprit nous crée à son image, c'est-à-dire à la fois libre, mais ayant un profond attachement aux autres, comme Dieu lui-même à chacun pour chacun de nous. Le projet de Dieu en Christ, c'est la diversité d'être chacun un Moïse, mais c'est aussi une communion. C'est cette paire magique, finalement, de la diversité et de la communion qui permet, qui fait que la communauté ne soit pas un enfermement, mais un véritable intérêt pour l'autre. Une soif, une curiosité d'entendre ce que l'autre a à dire, de l'entendre parler sa propre langue, la sienne, sa foi, sa sensibilité, sa façon de faire de la politique, ses opinions, ses goûts, son talent. L'Esprit, non content de nous donner un souffle neuf, il cherche à nous rendre capables de vivre cette diversité, d'entendre la vérité qui est dans ce que l'autre a d'unique. L'Esprit cherche à nous rendre capables aussi d'aimer, de pardonner, de servir, d'écouter, de dialoguer, de respecter et même de n'être pas d'accord, sans pour autant tuer l'autre. Car cela, tuer l'autre quand il n'est pas d'accord, c'était avant, bien avant Babel. Et maintenant, nous avons passé Babel, nous avons passé encore bien d'autres accomplissements à travers l'histoire de l'Écriture. Nous en sommes à la Pentecôte, l'Esprit accomplissant toutes ces belles promesses de Dieu, toutes ces Écritures en chacun de nous, grâce au Christ de Dieu. Amen. Et les catéchumènes nous proposent de chanter donc le cantique 150 dans nos petits recueils louanges et prières, les trois strophes de ce cantique « À toi la gloire ». Vous pouvez prendre place pour quelques annonces. Alors d'abord, à la sortie de ce culte, eh bien, il y a des éclaireurs qui vendent donc des gâteaux et ça permet donc de financer le matériel de leur camp. Mardi soir à 18h, il y a le chœur d'enfants qui est réuni par Fabien Aubé. Mais jeudi soir à 20h30, il y a le concert du chœur de l'oratoire ici même. Donc avec du Mozart, du Mendelssohn, du Reichel et du Rheinberger. Vous pourrez acheter les billets donc avant le concert en venant donc à ce beau concert qu'ils nous ont préparé. Samedi à 10h, il y a l'hébreu biblique et puis dimanche ici même, eh bien, il y a donc un culte comme tous les dimanches que Dieu fait à 10h30 avec Marc Boss qui est professeur à la faculté de théologie protestante. Alors, comme vous le voyez, il y a la Sainte Cène est organisée en ce jour de Pentecôte. Qui que vous soyez, quelle que soit votre croyance, votre église, ou même si vous n'avez aucune église, quelle que soit votre vie, vous êtes bien entendu chaleureusement invité à participer à ce repas. Mais si vous, voilà, si vous ne le sentez pas trop, si ce n'est pas trop votre façon d'exprimer votre foi, eh bien, vous n'êtes pas non plus, bien sûr, obligé de participer. Vous pouvez prendre le pain, vous pouvez boire dans la coupe, ou bien simplement aussi rejoindre les autres dans le cercle et passer le plat et la coupe à votre voisin, ou bien vous pouvez rester à votre place à méditer silencieusement si vous ne vouliez pas participer. Maintenant, c'est le moment de l'offrande, Effectivement, nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est un témoignage de notre reconnaissance et une consécration donc, qui permet à l'Église d'annoncer aussi à nos côtés l'Évangile.
Au moment de partager ce repas, nous faisons monter l'expression de notre reconnaissance. Oui, Éternel notre Dieu, c'est pour nous bonheur et joie de te célébrer, car tu nous donnes la vie, tu nous donnes l'espérance. Tu as envoyé ton Fils, il est devenu notre frère. Tu as envoyé ton Esprit, il est devenu notre paix. C'est pour nous la source d'un profond émerveillement. Que toi, Seigneur, tu puisses être nommé Père, et que Jésus-Christ soit le pain vivant qui s'offre au monde, que l'Esprit Saint demeure au plus secret de nous-mêmes. Aussi, nous t'adorons, Seigneur. Amen. Lors de ce dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, alors qu'ils avaient mangé, Jésus prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. » répandu pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Nous prions Dieu. Ô Dieu notre Père, merci pour tout ce que tu nous as donné en Jésus-Christ, pour que nous ayons l'amour, la vie et la joie. Voici le pain de sa parole qui nous redresse et nous libère. Voici la coupe de sa vie qui nous fait vivre de ton amour, ô notre Dieu. Fais qu'à cette table où tu nous invites, nous soyons en communion avec ton Fils Jésus-Christ et que nous recevions tout ce qui vient de lui. Oui, Seigneur, fais venir sur nous un souffle de renouveau, un souffle de vie, et que rien désormais ne nous écrase, ni la peur, ni le désespoir, ni la haine, ni nos blessures anciennes, ni un manque de foi. Mais fais de nous des êtres vivants, debout, une source de foi, d'espérance et d'amour pour d'autres. Et en communion avec tous les croyants de par le monde en ce jour de Pentecôte, nos cœurs élèvent vers toi avec confiance la prière que ton Fils nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Yeah.
Éternel Dieu, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ainsi, c'est sans aucune crainte que nous pouvons nous avancer et participer à ce repas du Seigneur. Donc nous allons fabriquer, faire des tablées successives d'une cinquantaine de personnes, et puis nous avancer par les allées centrales et repartir, si possible, par les allées latérales. Venez, nous dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. Non, mais oui, commence par participer à la... Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur. Voilà, c'est le sang de l'Alliance répandu pour la multitude, pour le pardon de tous.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir... Il y eut un matin, ce fut le premier jour.
Frères et sœurs, rejoignons nos places portées par l'Esprit de Pentecôte.
Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Oui, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Alors après la bénédiction que nous allons recevoir de la part de Dieu, eh bien vous pourrez laisser vos cantiques, vos psaumes, donc sur la dernière chaise de la rangée, comme ça permet de fluidifier un peu la sortie et nous les rangerons donc après tranquillement. Vous pouvez vous lever pour recevoir cette bénédiction de Dieu qui nous ressuscite, qui nous envoie en mission. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, toi. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. La paix que Dieu donne en Christ et que le monde ne peut pas donner.